Eh bien voilà, chers auditeurs, bonsoir, Olivier Tournafond, ce 31 mars 2026, dans une émission consacrée aux libertés universitaires, dont on va voir qu'elles sont quand même pas mal malmenées pour toutes sortes de causes. J'ai le plaisir de recevoir dans ce studio mon éminent collègue Arabe Mardi-Rossian, professeur à Paris 1, et mon également éminent collègue Jean-Luc Cornel de Boissaison, professeur actuellement sans chair, on va dire, hein, sans chair, depuis un incident très fâcheux qui est arrivé à la faculté de Montpellier. Mais on espère tous qu'il sera rétabli dans ses droits un jour. Et puis nous avons Marc de Stahl qui va assurer donc la lecture des questions des auditeurs. Sur cette question des libertés universitaires, alors bon, quelques mots sur ces libertés universitaires. Elles sont très anciennes, elles remontent au Moyen-Âge, hein. Elles datent d'une époque où la connaissance était privilégiée et on devait considérer que les universités étaient des havres de réflexion et d'objectivité, d'impartialité. Et il faut dire que ces libertés universitaires se sont assez bien maintenues tout au long du temps, tout au long de l'histoire, mais elles sont aujourd'hui menacées par différents facteurs que j'évoquerai avant de laisser la parole à mes invités qui pourront exprimer leur point de vue. Alors d'abord, comment devient-on professeur d'université ? Eh bien, c'est une question que souvent les gens se posent. Alors, ça, c'est très variable d'un pays à l'autre et d'une discipline à l'autre. Il faut généralement être docteur, docteur en droit, docteur en sciences, docteur en économie, docteur en médecine. Bon, c'est une condition requise a priori. Après, suivant les pays et les matières, on est soit nommé par une sorte de cooptation, ce qui est le cas dans les pays germanophones qui ne connaissent pas le système d'agrégation, ou d'ailleurs dans les pays de common law, où on vient souvent d'ailleurs non pas du milieu universitaire, mais du milieu des praticiens, parce que les universitaires sont souvent soit des gens qui ne sont pas vraiment chez nous juristes, c'est plutôt des sociologues, ou alors si c'est des juristes, ils viennent d'une école de droit, ils ont été avocats, magistrats, et puis ils enseignent. Et, ou alors on a dans certains pays latins, comme la France, les concours d'agrégation, mais qui n'existent pas dans toutes les disciplines. L'agrégation, qu'il ne faut pas confondre avec l'agrégation dite du secondaire, qui, elle, n'implique pas d'être docteur, et qui est déjà un concours difficile, d'ailleurs, hein, par exemple en lettres classiques. L'agrégation du supérieur, elle, implique d'être docteur, et elle existe, à ma connaissance, en droit, et elle existait en médecine et en pharmacie, mais je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Je crois que ça a changé. Et elle existait en sciences économiques également, mais je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui ou non.
Oui,
ça existe toujours, voilà. Et en médecine et en pharmacie, est-ce que ça existe encore, le système de l'agrégation ?
J'ignore.
Vous ne savez plus. Oui, je crois que ça a été supprimé au profit. Alors, il y a d'autres moyens de devenir professeur d'université. C'est de passer ce qu'on appelle à la voie longue, c'est-à-dire sur ses travaux. Alors là, il faut être plus âgé. Alors, l'avantage du système de l'agrégation, c'est qu'on peut être nommé professeur très jeune. Là, c'est un grand avantage. Je crois que notre collègue Cornel de Boissaison a été nommé très jeune professeur, hein, si je ne m'abuse, puisque on m'avait présenté, le doyen des radios m'avait présenté, vous m'avez présenté comme un surdoué. Il m'avait dit, voilà, dans les couloirs de Paris 12. Et il y a des gens qui se sont agrégés plus tardivement, parce qu'il faut repasser le concours. C'est très prenant, c'est un concours très difficile, comme l'ENA ou Polytechnique. Hein. Et l'avantage, c'est qu'on peut être professeur très jeune. Et puis, on a acquis, évidemment, avec le concours d'agrégation, une excellente méthodologie. C'est ça qui reste toute sa vie. On sait bâtir un plan, on sait s'exprimer. C'est un concours pédagogique. Un concours qui consiste à faire passer des idées compliquées auprès d'un public qui n'est pas, a priori, spécialiste. Et donc, c'est un concours difficile et très formateur. Alors, le travail de professeur d'université est un travail extrêmement intéressant et très agréable, parce qu'il y a un contact avec les étudiants, un échange constant, c'est un milieu de gens intellectuels. Alors, ils n'ont pas toujours fait preuve d'un très grand courage dans l'histoire, c'est le moins qu'on puisse dire, mais dans l'ensemble, ce sont des gens distingués, intéressants, agréables, d'un commerce très plaisant. Et puis alors, les libertés, justement, universitaires sont très grandes. C'est d'une part une absence totale de hiérarchie, il ne faut pas l'oublier, on n'a pas de supérieur hiérarchique, et une liberté d'expression qui, en principe, est gravée dans le marbre de la Constitution. C'est-à-dire qu'on ne peut dire ce que l'on veut, à condition de rester dans les limites, bien sûr, de la décence et du raisonnable. Mais on peut, en principe, on ne peut pas être inquiété par ses opinions. Alors, d'une manière générale, on ne peut jamais être inquiété par ses opinions. Hein. C'est la Déclaration des droits de l'homme. C'est également l'arrêt, j'ai oublié le nom de l'arrêt du Conseil d'État, rendu dans les années 46-48, je ne sais plus comment il s'appelle cet arrêt, qui a décidé qu'on ne pouvait jamais discriminer quelqu'un sur ses idées politiques. Donc, sur le papier, on est...
L'arrêt Barrel.
Voilà, c'est ça. Barrel, voilà, oui. C'est ça. On est très protégé et c'est un mode de vie extrêmement agréable parce que vous n'avez pas d'horaire de bureau. Vous êtes libre absolument d'organiser votre temps comme vous voulez. Ça s'est fondé un peu sur le principe noblesse oblige, c'est-à-dire que dès lors que vous êtes prof d'université, on estime que vous avez suffisamment d'amour propre pour être digne de votre titre et que vous n'allez pas vous laisser aller à la paresse ou au mercantilisme. Alors malheureusement, ça n'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, il faut dire que les universitaires sont assez fidèles à cet idéal, et surtout ceux qui... Bon, il y en a ceux qui sont voies longues aussi, bien sûr, mais beaucoup de gens qui sont passés par l'agrégation, c'est un peu comme un ordre de chevalerie. D'une certaine manière, je dirais que c'est le dernier titre nobiliaire qui existe encore. Alors, il n'est pas héréditaire, il est viager, mais je rappelle que sous l'Ancien Régime, le fait d'être professeur à l'université entraînait l'anoblissement au bout d'un certain nombre d'années. Je crois que c'était une vingtaine d'années pour un... Je crois que Jean-Luc Cornel de Boissaison pourra peut-être nous donner des précisions sur cet anoblissement, puisqu'une été comitale était remise. Donc, normalement, nous serions comtes, n'est-ce pas, Aram, et peut-être vous, pas encore, peut-être vicomte seulement, mais vous l'êtes déjà par ailleurs. Vous l'êtes déjà de toute façon. Vous l'êtes de manière héréditaire. Bon. Mais on était anoblis, ce qui était très bien. Je trouve que moi, je suis très favorable aux ordres nobiliaires. Je trouve que c'est un moyen d'élever l'homme et pas de le rabaisser. Alors, c'est un métier merveilleux parce que vous mettez vos cours quand vous voulez. Vous pouvez choisir vos cours si vous êtes prof. Vous avez une priorité sur les autres membres du corps académique, notamment les maîtres de conférences, les assistants et tous les autres. Vous dirigez une équipe pédagogique, vous pouvez exprimer votre vision du monde. Ce qui est extrêmement agréable, parce qu'on peut avoir une vision rationnelle et propre. Et souvent, dans vos écrits, vous défendez cette vision. Ça, c'est le bon côté de cette profession, qui présente en même temps une extraordinaire sécurité de l'emploi, parce que on est fonctionnaire, on a la liberté d'un artiste, mais on est payé par l'État. Ce qui est extrêmement, extrêmement agréable, c'est un des métiers les plus agréables au monde, je dirais. Mais il y a des bémols. Les bémols, c'est les atteintes à ces libertés universitaires. Alors, les bémols, c'est le premier, et ça s'est beaucoup aggravé depuis, on va dire, une vingtaine d'années, c'est la médiocrité et l'indigence des traitements. Dans les années 60, un professeur d'université gagnait relativement bien sa vie, puisque Philippe Malinvaux racontait dans les années 2000 qu'un prof d'université gagnait à peu près l'équivalent de 10 000 euros par mois, ce qui était quand même considérable. Aujourd'hui, le même prof d'université, il gagne la moitié. Il gagne la moitié parce qu'il y a une érosion du pouvoir d'achat. Et si je prends, je vais faire comme Coluche, je prends un exemple au hasard, moi, ce que disait Coluche. Quand j'ai commencé comme jeune prof agrégé en 1989 à la faculté de droit de Chambéry, je me souviens que mon traitement net était de 15 000 francs par mois. Et à l'époque, on me disait, oh là là, c'est pas beaucoup. Un préfet gagne le double, je me souviens très bien, gagne 30 000 francs par mois. C'est pas beaucoup, il faut avoir d'autres moyens d'existence. C'est vraiment pas beaucoup. Eh bien, les 15 000 francs par mois représentent en pouvoir d'achat, j'ai fait le calcul, exactement ce que je gagne aujourd'hui, en professeur de première classe, à 4 500 euros par mois. Ça équivaut en pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'en fait, je gagne la même chose qu'au début, sauf que j'ai fait toute une carrière. Et que ça veut dire qu'au lieu de progresser dans l'échelle indiciaire, en fait, j'ai complètement stagné. Et je pense que vous, Aram, vous êtes dans la même situation. Vous devez gagner Pas plus, sinon peut-être moins que ce que vous gagniez quand vous avez été jeune prof.
Oui, je suis classe exceptionnelle.
Vous mais... étiez classe, à vous, vous avez passé la classe exceptionnelle. Ouais, mais moi, on me l'a refusé pour des raisons politiques, dont je parlerai tout à l'heure.
Je passe entre les gouttes.
Oui, vous avez bien fait, vous avez été plus habile que moi. Vous êtes, pourtant, vous êtes exposé.
Sur ce coup-là, peut-être plus chanceux,
et vous gagnez donc un peu plus que les 4500, oui. Mais enfin, ça ne fait pas beaucoup par rapport à ce que gagnait un... Alors, en Allemagne, un prof gagne
vu le ratio
plus.
De diplômes, d'années de... C'est,
Et un prof en Suisse gagne quand même 10-12 000 francs suisses par mois, suivant les cantons.
Aux États-Unis, pareil.
Voilà, donc ça change tout. C'est-à-dire que là, alors, c'est une première entrave à la liberté, parce que quand vous gagnez si peu, vous ne pouvez même plus vous loger dans une métropole comme Paris. Vous ne pouvez plus, à moins d'avoir une fortune personnelle, avoir des revenus annexes, évidemment. Mais là, vous avez de toute manière une indépendance par la force des choses. Si vous avez une fortune personnelle, vous êtes de toute façon indépendant. L'indépendance financière, c'est la clé de la liberté. Et elle est elle-même fondée sur le droit de propriété. C'est pour ça que je suis un grand défenseur du droit de propriété. Parce que je pense qu'il y a un lien entre la propriété et l'indépendance financière et l'indépendance tout court et la liberté tout court. Donc l'idéal, c'est pas de prendre, de prendre à ceux qui ont quelque chose, c'est de faire en sorte que tout le monde s'enrichisse. C'est ça le vrai sens du progrès, c'est celui-là. Alors, donc, si vous n'avez pas suffisamment d'argent pour vivre décemment dans une ville comme Paris, où un loyer d'un appartement bourgeois, c'est facilement 3000 euros par mois, vous n'avez pas les moyens. Alors vous êtes obligé, eh bien, de monnayer non pas vos charmes, parce que là c'est un peu exagéré, mais de monnayer vos talents en devenant avocat ou conseil. Et là, c'est une atteinte extrêmement grave à la liberté universitaire, parce que vous êtes soumis au bon vouloir de gens qui sont des clients. Alors il y a des domaines où ces gens se fichent comme de l'an 40, des idées politiques. Vous pouvez, après tout, vous êtes en droit des affaires. Vous êtes en droit social, et encore en droit social, c'est tangent déjà.
Social,
ouais, c'est tangent. Mais vous êtes en bon dans certains domaines, c'est technique, vous êtes fiscaliste. Ouais, quoi que fiscaliste, c'est tangent aussi. Hein. Vous perdez, si vous êtes mal vu de vos clients, bah, vous ne pouvez pas vous permettre de les perdre. Parce qu'ils ont des conflits d'intérêts, eux. Un de mes collègues, dont je tairai le nom, de Paris 12, m'a dit, parce qu'il sait très bien que je suis très à droite, comme nous tous hein, ici. Et il m'a dit, tu comprends, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais moi, jamais je ne pourrais le dire parce que, tu comprends, j'ai des clients, je dépends de mes clients et je n'ai pas le droit de déplaire à mes clients. Parce que si je n'ai plus mes clients, je ne paye plus mon crédit, je ne paye plus la voiture, je ne paye plus le cabinet, je n'ai plus de travail, c'est dramatique. Donc moi, la vérité, eh ben, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Moi, il faut que je vive. Un point, c'est tout. Donc, ça... vous donne une idée de la perte de liberté que ça entraîne immédiatement. Dès lors que vous êtes soumis à des groupes d'influence qui vous payent, vous n'avez plus de liberté, de facto. Ça, c'est la première grave atteinte. Alors, ou alors, vous vivez comme Diogène dans un tonneau, et vous gardez votre liberté, ou vous faites comme un rat mardirocian, vous arrivez à défendre la vérité envers et contre tout, mais parfois à quel prix ? À quel prix ? Ça, c'est le premier inconvénient. Alors, bien sûr, première atteinte à la liberté. La deuxième atteinte à la liberté, alors ça, on en parlera avec Aram tout à l'heure, c'est depuis 2010, jusqu'en 2010, c'était à peu près, on était à peu près tranquille. C'est les contraintes bureaucratiques insupportables auxquelles nous sommes désormais soumis, avec en permanence des obligations de répondre à des rapports, notamment des rapports d'auto-évaluation sur des plateformes numériques, comme l'auto-évaluation que la haute autorité, l'HCRS, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est quoi, haute autorité, autre, je ne sais plus, c'est un bidule qui a été supprimé d'ailleurs. Alors, j'ai vu, en 2014, il y a eu une première auto-évaluation, ça faisait 50 pages, sur les diplômes que je dirigeais, j'ai passé une semaine à répondre à ce truc-là, j'en pouvais plus, et c'était encore à peu près intelligible. Mais la vague suivante à laquelle nous avons participé, rappelez-vous, Marc, alors là, c'était absolument délirant. Il y a pas de, c'était de l'aliénation mentale, parce qu'on ne comprenait même plus de quoi il s'agissait. La notice explicative était épaisse comme un annuaire du téléphone. C'était totalement incompréhensible. Alors, qu'est-ce qu'a fait, qu'est-ce qu'on a fait ?
C'était un tableur qui faisait 159 lignes,
voilà,
et avec qui... une 12-13 colonnes,
oui,
et beaucoup de novlangues soviétiques bureaucratiques qu'il fallait remplir.
Et alors, un tableur qui ne pouvait être vu qu'avec un très très long écran de plus de 3 mètres de long, et encore, il fallait presque prendre une loupe pour examiner, pour lire chaque ligne. Autant dire que sur un écran d'iPhone ou sur un écran d'ordinateur normal, c'était inutilisable. Dans les années 90, quand j'ai été prof, j'étais à Chambéry, on avait des secrétaires, elles tapaient tout le courrier, il n'y avait aucune corvée bureaucratique. Jamais. De temps en temps, il fallait présider la commission de spécialistes, il fallait lire des thèses, c'était notre métier. Corriger les copies, il n'y avait pas de corvée bureaucratique. Il y en a commencé à y en avoir plus ou moins entre 2000 et 2010, mais c'est à partir de 2010-2020 que ça a littéralement explosé. Alors, ce qui est cocasse, c'est que Marc et moi, nous avons décidé, à la grande surprise de certains collègues, de répondre absolument n'importe quoi. Nous avons répondu n'importe quoi, et Marc est un spécialiste de la langue de bois soviétoïde. Et un jour, un de mes collègues me dit « Mais Olivier, vous vous rendez compte que cette phrase ne veut absolument rien dire ?» Et je dis oui, c'est voulu. Eh bien, figurez-vous qu'on a eu les meilleures évaluations.
Nous sommes les seuls qui n'avons eu aucune réserve, aucune remarque, contrairement à tous nos autres collègues.
Qui, eux, avaient fait l'effort de remplir quelque chose d'intelligible.
Non, mais c'est logique, à Rome, fait comme les Romains, il fallait se mettre au niveau de ce qui était demandé.
Et quand les examinateurs de l'HCRS ont vu notre truc, ils ont dit « Oh là là, ça c'est trop fort pour nous ». Bon, allez, passons au suivant. Là, ça va, c'est bon. Ah, mais c'était quelque chose d'inimaginable, parce que c'était... On a répondu n'importe quoi. N'importe quoi. Donc là, ça va dans le sens de ce que vous disiez, Aram, c'est pathologie mentale. Pathologie mentale des gens qui mettent ça en place. Ça, c'est un deuxième frein à la liberté. Et puis, alors, le troisième frein à la liberté, c'est de plus en plus... la pollution par le politique de nos travaux. Alors, la pollution par le politique de nos travaux, elle a commencé dans les années 80-90, lorsqu'il y a eu des travaux, pas du tout en droit d'ailleurs, mais dans certaines disciplines comme l'histoire contemporaine, qui ont remis en question, qui sont interrogés sur certains événements que je me garderai bien de citer parce que nous pourrions être nous-mêmes embêtés à la radio si je les citais avec trop de précision. Ces gens-là ont été très, très, très durement persécutés et je rappelle que certaines thèses ont même été annulées. Les soutenances ont été annulées, notamment c'est la thèse d'Henri Roch qui a publié une thèse en histoire contemporaine en 1987. Sur un sujet que je tairai ici parce que c'est pas utile de le donner, mais tout le monde devinera de quoi il s'agit. La thèse a été annulée. Un autre exemple, alors je peux donner le sujet, c'était une thèse sur les fondements philosophiques de la démocratie moderne de Maxence Eckart. La thèse n'a pas pu être soutenue parce que les membres du jury se sont tous dégonflés les uns après les autres. La thèse n'a jamais pu être soutenue. Et puis, il y a les sanctions qui ne disent pas leur nom, l'absence de promotion de tous ceux qui ont déplu. Alors moi-même, je n'ai jamais pu passer comme vous en classe exceptionnelle. On me l'a dit clairement, parce que j'avais participé en 2013 à l'université d'été du Front National. D'ailleurs, je ne suis pas membre du Front National. Là, pour moi, c'est un parti plutôt républicain. Mais bon, je les trouve plus courageux que d'autres. Donc, j'ai été intervenu pour parler des atteintes aux libertés dans les États occidentaux. Des atteintes aux libertés, des atteintes aux droits de l'homme dans les États démocratiques. Parce qu'on parle toujours des atteintes aux libertés dans les régimes dictatoriaux, en Russie, en Chine. Mais on en parle. Alors, j'avais fait une conférence là-dessus, au Rassemblement, mais sans être membre du parti. Et quand j'ai demandé à plusieurs reprises à la classe exceptionnelle, le doyen, à l'époque, m'a dit « Mais vous savez, vous ne l'aurez jamais, parce que ils ne vous pardonneront jamais d'avoir participé à l'université d'été du Front National. On ne vous le pardonnera jamais. Donc vous ne l'aurez jamais. » Alors je lui ai dit « Est-ce que vous pourriez me l'écrire ? Ça m'intéresserait d'avoir une attestation écrite. » Et là, il a éclaté de rire, il est parti en claquant la porte. Voilà, ça c'est la vérité. C'est la vérité. Bon, alors ça, évidemment, ça dissuade beaucoup de chercher à exercer leur liberté universitaire. Alors ça s'exerce toujours, d'ailleurs, dans un certain sens. Si vous êtes un activiste d'extrême-gauche, alors là, pas de problème, vous avez tous les droits. Mais si on considère que vous êtes dans le mauvais camp de l'histoire, puisque d'après ces gens-là, il y a un sens de l'histoire, hein, on le verra demain avec Jean-Louis Harwell, qui appelle ça le gnostico-millénarisme, eh bien si vous êtes contre ce qu'ils estiment être le sens de l'histoire, où ils se sont toujours trompés d'ailleurs, là, on vous sanctionne, nonobstant les règles de droit qui sont absolument contraires, évidemment. Alors, vous, vous avez, cher collègue Cornel de Boissaison, vous avez connu, malheureusement, une très grave crise politique à Montpellier, parce qu'il faudrait peut-être rappeler quand même aux éditeurs ce qui vous est arrivé, et dans quelles circonstances on s'en est pris à vous, au mépris de ce que dirait de ce qu'on pourrait appeler l'équité élémentaire et le sens des proportions. Est-ce que vous pouvez raconter rapidement à nos auditeurs ce qui est arrivé ?
Oui, c'était en 2018, qui était le cinquantenaire de mai 68. Et donc, à l'occasion de ce cinquantenaire, l'extrême-gauche en France a décidé de tenter de rejouer mai 68. C'était le cas en particulier du côté de la France insoumise. Montpellier avait une députée de centre-ville qui appartenait à la France insoumise. Et les universités montpelliéraines ont fait l'objet d'occupation, de tentative d'occupation. Alors, la faculté de lettres avait été occupée un peu avant l'anniversaire, dès le mois de février. À la faculté de lettres, les occupants ont fait 1 100 000 euros de dégâts.
Ah oui.
Voilà, et la faculté a été bloquée de février à septembre. Voilà. Une partie de cette équipe a essayé de venir bloquer la fac de droit. Voilà. Alors, c'est une affaire très longue, je vais essayer d'être bref. Pour les faits eux-mêmes, ce sont des gens qui ont essayé de venir faire une AG, comme ils disent, d'une assemblée générale. Ils sont venus à 150 de l'extérieur, et nos étudiants ont rejoint l'amphi, ont voté contre eux.
Ouais.
Voilà, donc ça c'était le 21 mars 2018, et ils sont repartis en ayant perdu la partie. Le lendemain, il y avait une manifestation pour le service public, et habilement, ils ont détourné le cortège vers la fac de droit et sont venus occuper à 400 personnes de l'extérieur un amphithéâtre, avec les gens de la veille, qui avaient donc fait l'objet d'un vote à 80% de nos étudiants contre le blocage, et qui sont venus occuper par la force. Voilà. Donc ça a été une occupation d'un amphi absolument délirante, avec des violences contre nos étudiants. Donc c'est des gens entièrement de l'extérieur. Ouais. L'occupation est extérieure et illégale.
Ouais.
Un rapport de l'IGENR, l'Inspection Générale de l'Éducation Nationale, a reconnu que l'occupation était illégale. Et ce sont des gens qui vont se maintenir par la violence, en violentant les étudiants, en violentant les enseignants, et en essayant de commencer ce qu'ils avaient fait également à la fac de lettres, c'est-à-dire détruire nos terminaux informatiques, de sorte que l'occupation soit totale, physique, et que soit empêché aussi ce qu'on n'appelait pas encore le distanciel. Voilà. Donc ce sont des gens qui ont mis le feu, il y a un incendie dans notre sous-sol où sont nos terminaux informatiques, également en fin de journée. Voilà, alors c'est une situation où les forces de l'ordre auraient dû évidemment intervenir.
Oui, oui.
Voilà, le président de l'université les a sollicités à partir de 3h de l'après-midi. Donc, et il y a la consigne de ne pas intervenir. Alors, il y a le problème du statut des établissements publics, où, on le sait, il y a un trou dans la loi à cet égard. Des députés ont essayé d'y remédier, dont, du reste, Patrick Hetzel passait trop brièvement au ministère de l'Enseignement supérieur. Et donc, mais la véritable raison, parce que ça aurait pu au moins être sécurisé aux abords de l'université, c'est que on s'en souvient peut-être, il y avait un contexte très inflammable pour Emmanuel Macron. Il y avait plusieurs grèves.
Il y avait les gilets jaunes.
Non, pas encore.
Pas encore. C'était avant les gilets jaunes.
Pas encore. C'était juste avant. Mais il y avait les ZAD. Il y avait une grande agitation sociale. Donc. Le préfet a fini par dire au doyen, en l'occurrence, de la faculté de droit, Philippe Pétel, qu'il n'interviendrait à aucune condition. Et ça a inquiété Philippe Pétel, qui s'est demandé comment les choses allaient tourner après autant de violence contre des enseignants, etc. Voilà. Alors, moi, j'étais chez moi cet après-midi-là. J'avais fait cours le matin. On m'a téléphoné vers 10h30 du soir en me disant que mes chargés de TD commençaient à se faire taper dessus. Donc, j'ai rejoint la faculté. Voilà. Et j'ai constaté effectivement l'état de tout ça. Donc, au bout d'un moment, le doyen a décidé d'essayer de sortir les occupants quand vers minuit, il n'y en avait plus que 70 dans l'amphi, vous voyez, ouais. Alors qu'ils étaient 400 l'après-midi, qu'ils avaient annoncé qu'ils seraient 800 le lendemain en essayant d'amener ouais. tout un réseau. Voilà. Et donc, il y avait là un certain nombre de gens qui étaient très motivés pour les mettre dehors, notamment ceux qui s'étaient fait taper dessus dans l'après-midi.
Oui.
Et voilà, j'avais, pour son malheur, ma compagne qui m'avait rejoint, d'ailleurs contre mon avis, avec certains de ses amis qui voulaient eux-mêmes la protéger. Et vers minuit, le doyen a organisé effectivement l'évacuation, ce qu'il pouvait faire en tant qu'autorité de police, ouais. Le règlement de la faculté le lui reconnaissant. Et écoutez, on est entré à une dizaine et effectivement, on a poussé tout le monde dehors. Ça a duré moins de 5 minutes.
Et sans violence particulière.
Sans violence particulière, puisque et c'est ce qui est la plus grande désinformation sur cette affaire, le dossier pénal donc existe, n'est-ce pas ? Une cote pénale rappelle le rapport du juge d'instruction qui va faire le renvoi et qui dit donc quel est le bilan ? Il y a 2 blessés légers, 1 jour d'ITT, il y a 1 occupant. Oui. Il y a des ecchymoses anciennes aux membres inférieurs, c'est-à-dire le médecin légiste n'est même pas sûr que cette personne qui était un pilier des squats oui. l'avait eu ce jour-là, parce qu'on avait beaucoup de gens qui venaient des squats montpelliérains.
Ah oui.
Deuxième personne qui a eu un jour d'ITT, c'est moi-même.
Ah oui.
Puisque j'ai été frappé pendant l'évacuation, notamment par derrière, et avec, d'après le légiste, qui est un légiste de l'hôtel de police pendant ma garde à vue, puisque j'ai été mis en garde à vue,
parce qu'on, c'était avec on vous a reproché des violences. On vous a reproché des violences.
Voilà, tout ça, à fait. On m'a reproché d'avoir effectivement défendu ma faculté, être venu d'ailleurs défendre mes chargés de TD.
Oui, et d'avoir molesté 70 personnes à vous tout seul, un peu comme Donald Trump qui se voit en Superman.
Alors, une dizaine de personnes ont eu le courage d'entrer. Bon, les occupants n'avaient pas l'habitude apparemment d'être perturbés dans leur dégradation. Donc la plupart sont partis
spontanément,
sans trop de problèmes. Puis oui. il est resté les durs, mais qui n'étaient absolument pas des étudiants, hein, qui étaient
des
militants des et des activistes, des casseurs. Voilà. Oui. Voilà. Écoutez, ça aurait dû en rester là. Hein,
oui.
Et puis voilà, déchaînement médiatique. Et ensuite, folie furieuse avec 2 procédures disciplinaires pour votre serviteur et aussi le doyen de la fac.
Ouais, ouais.
Voilà, procédure disciplinaire d'un côté, procédure pénale de l'autre côté, dans un contexte médiatique où, si vous voulez, le procès a été fait par le tribunal médiatique.
Oui, c'est ça.
Il n'y a pas d'appel du tribunal médiatique.
Non.
C'est ça le problème. Donc voilà, le procès pénal a été délirant. Vous avez entendu le bilan concret.
Oui, hein. Oui.
Au procès pénal, les pseudo-victimes, il y avait 9 personnes, partie civile, à qui mon avocat avait annoncé, à leur avocat, qu'on allait sortir les pièces de leur dégradation et de leur violence. Ils se sont tous désistés pour n'avoir pas à répondre de leurs faits et gestes. Et donc, on a eu un procès pénal sans partie civile.
Sans victime.
Voilà, sans victime. Ah, et sans victime. Le procès n'a pas été renvoyé. Le président du tribunal était un magistrat du syndicat de la magistrature et il a réussi à nous condamner en première instance. Moi, j'étais condamné à 18 mois de prison, dont 6 fermes sous bracelet électronique, interdiction professionnelle d'un an, etc. En appel, j'ai été relaxé en partie. Des faits de violence, c'est-à-dire qu'il a été reconnu que je n'avais pas commis de violence personnelle, que j'avais dû me défendre, mais est restée la complicité de violence, si vous voulez.
Ouais.
L'interdiction professionnelle a été levée, donc j'aurais dû
réintégrer
j'ai eu un an de prison avec sursis, j'aurais dû rentrer tout simplement.
Ouais.
Et au disciplinaire, en première instance, l'affaire a été délocalisée à Jussieu.
Ouais.
Ceux qui connaissent Jussieu voient ce dont
ouais, je
veux parler. Voilà, une section disciplinaire de 4 syndicalistes, dont un soutien, Madame Marcellesi, un soutien constant de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, ces gens m'ont révoqué avec interdiction de toute fonction dans tout établissement public. Voilà, des gens qui ne sont pas juristes.
Mais dès lors que vous êtes relaxé au pénal, est-ce qu'on peut prononcer une sanction disciplinaire ? C'est ça qui me paraît étrange, moi, je ne sais pas. Bon.
Vous savez, là, il y a un extraordinaire relativisme, puisque dans ce type de cas, tout dépend en fait de la couleur politique du...
Ben oui, bien sûr, c'est ce qu'a dit Anne-Marie Anne-Marie Le Pourrier, a commenté cette décision qu'elle a jugée inique et totalement disproportionnée. Et non fondé juridiquement. Donc, vous voyez, c'est un jugement très dur.
Les désordres de juridiction, les désordres de juridiction sont supposés être indépendants. Et lorsqu'il s'agit de personnes qui vont dans le sens de ces syndicalistes, on considère que c'est tout à fait indépendant. Dans mon cas, on a considéré que c'était pas le cas. Le Covid est passé par là, donc c'est une affaire très longue et absolument épuisante.
Ouais,
il y a eu 6 ans de contentieux en tout. Mais au disciplinaire, le CNESER, bien que présidé par le SNESUP, c'est-à-dire par les gens même qui avaient organisé l'occupation de ma fac, mais le CNESER a quand même reconnu que c'était totalement disproportionné.
Ouais.
Ça faisait 4 ans que j'étais suspendu sans rémunération. Alors ils ont dit on lui met 4 ans sans rémunération, on les réintègre. Et donc je suis réintégré.
Bon.
Là-dessus, l'extrême gauche se mobilise. Et demande une cassation au président de l'université, à la ministre, qui se pourvoit en cassation devant le Conseil d'État, qui annule ma réintégration, avec renvoi devant le CNESER, qu'on appelle disciplinaire. Le CNESER me réintègre.
De nouveau.
Donc je suis réintégré une deuxième fois par le CNESER, qui pourtant se situe politiquement à l'extrême gauche. Même chose, mobilisation de l'extrême gauche, mobilisation des médias, spécialement de l'antenne régionale de France 3. Les antennes régionales de France 3 sont en fait des officines d'extrême gauche. Et le président de l'université, la ministre, se repourvoie contre moi. Mais là, second pourvoi, donc, le Conseil d'État juge par évocation, pas de renvoi, il rejuge les faits. Et quelle surprise, ils m'ont révoqué définitivement.
C'est incroyable.
Et j'ajoute, pour terminer, pardon, j'ai été trop long, la décision du Conseil d'État et le rapport du rapporteur public Jean-François de Montgolfier dit, que peut-on faire de ce fonctionnaire ? Est-ce qu'il y a faute professionnelle ? Non, c'est pas du tout une faute professionnelle, c'est pas dans le cadre de son service. Ce qui fait que je n'aurais même pas dû être poursuivi disciplinairement.
Ouais, c'est juste, oui.
Il n'y a pas de faute professionnelle, bien. D'ailleurs, le CNESER l'a réintégré. Bien. Deuxièmement, la faute pénale. Il a été relaxé de violence personnelle.
Ouais.
Et il a du sursis. Et il n'y a pas d'interdiction professionnelle. Il n'y a donc pas non plus de faute pénale. Qu'est-ce qui reste ? Et alors, monsieur de Montgolfier a inventé, il y a atteinte aux valeurs du service public.
Ça, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est un procès politique.
C'est noir sur blanc.
C'est un procès politique.
Allez voir les conclusions du rapporteur public et le jugement. Donc, j'ai été condamné pour atteinte aux fameuses valeurs.
Oui, mais alors on pourrait, moi, me condamner pour atteinte aux valeurs de la République, puisque je suis monarchiste. D'ailleurs, on pourrait rétablir l'échafaud et on pourrait rétablir la peine de mort au nom de l'atteinte aux valeurs de la République. Mais c'est là qu'on voit le caractère totalitaire de ces gens-là. Et ce qui d'ailleurs rejoint l'analyse de Jean-Louis Harwell demain, que vous participerez également à cette émission qui va être captivante avec Jean-Louis Harwell, c'est que les progressistes, la gauche, ce n'est pas une doctrine, c'est une secte. C'est une secte. Et alors, évidemment, on est sur une radio de droite, donc je peux m'exprimer librement. Mais le fait que j'ai toujours dit ça m'a bloqué ma carrière, évidemment. J'ai toujours pensé que c'était une secte. Et que c'était une secte qui se livrait à des procès politiques. On l'a vu avec Mao Tse-tung, et on l'a vu avec Staline, évidemment, les grands procès staliniens. On l'a vu dans d'innombrables circonstances. Ces tribunaux sont des simulacres de justice. Et vous avez été victime d'un simulacre de justice. Alors, moi, je peux faire une promesse solennelle qui n'engage que nous, mais nous la tiendrons à cette table. Si un jour nous parvenons à chasser cette secte du pouvoir, il serait grand temps de la chasser du pouvoir. Nous vous rétablirons dans vos droits. Parce que pour nous, vous êtes toujours un de nos collègues, vous êtes toujours professeur de droit. Et vous devrez être indemnisé de toutes les années pendant lesquelles vous avez été privé de revenus. Et moi, je dirais toujours, je suis prêt à signer toutes les pétitions en ce sens. Je pense qu'Aram aussi et Marc également, nous le ferons toujours. Parce que moi, je dis toujours que dans un état où on est capable d'aller sur la Lune ou de changer une femme en homme ou un homme en femme, on peut quand même mettre fin à une injustice aussi. On devrait être capable aussi de mettre fin à une injustice. Ou alors, c'est comme l'a dit très bien Aram Ardirossian, c'est que le monde occidental n'est plus qu'un vaste asile à ciel ouvert.
Ah, j'ai dit ça.
Non, enfin, je résume votre pensée. Vous disiez, c'est une pathologie mentale.
Ah, pour certaines dérives bureaucratiques, oui.
Là aussi.
Non, mais là, c'est autre chose. C'est beaucoup plus grave encore. Là, ce qui s'est passé pour notre collègue, oui. Mais bon, le vrai problème, c'est qu'il ne faut pas être naïf. C'est-à-dire que le droit, alors quand c'est du droit international public, c'est très visible. Mais même le droit interne, de plus en plus, comme dans ce cas, devient un moyen. Et n'est pas la fin. Le droit va être utilisé, tortillé dans tous les sens pour arriver à une fin, ici, de dimension politique, disciplinaire, que l'on va atteindre. Donc la preuve, là...
Sous les yeux. Vous avez été, en fait, le cobaye de ça. C'est parce qu'ils s'en sont pris à vous, parce que vous portez un beau nom, parce que vous êtes de droite, parce que vous êtes remarquablement compétent, je le sais par ailleurs, et qu'on m'a dit, c'est un des meilleurs historiens du droit qui existe. Donc, vous êtes emblématique. Vous seriez appelé d'un nom différent, roturier, ou issu, je dirais, de la diversité, et vous auriez eu une attitude de défense des gauchistes. Là, vous n'auriez jamais été inquiété, vous auriez sans doute été promu. Je crois qu'il y a des questions d'auditeurs.
Non, alors, j'ai eu une remarque pour vous, professeur. Il y a eu une évolution sur le CNESER, justement, sur sa composition. On y a justement modifié, on y a intégré un conseiller d'État qui désormais doit le présider. Donc je pense que vu le calendrier, je suis plus certain de la procédure. Vous avez connu sa nouvelle composition avec un conseiller d'État qui... Non, vous, c'était dans la version ancienne.
2018.
2019. Oui, tout à fait. Et il faut dire que la réforme du CNESER... a joué partiellement dans mon histoire probablement. J'ai été la dernière décision de l'ancien CNESER. Et il y avait probablement dans la résistance du CNESER au Conseil d'État également, je crois, j'aurais dû en tout cas bénéficier de sa volonté de montrer son indépendance dans un baroud d'honneur, qui était le dernier jugement indépendant du CNESER.
Oui, oui.
Et ce qui est drôle, c'est que le CNESER n'a pas été... Comment dirais-je, ce qui était très drôle d'ailleurs, c'est que la plupart de mes collègues, naïfs, comme mon collègue Aram était en train de le dire, me disaient « Ah, mais quand tu arriveras devant le Conseil d'État, tu seras devant de vrais juristes et non plus des syndicalistes du CNESER et tu seras sauvé. » Et c'était une grande naïveté et ne pas comprendre ce qu'est devenu le Conseil d'État, puisque le CNESER a été réformé non pas en raison de son caractère politiquement éminemment à gauche et totalement déséquilibré depuis très longtemps parce que les universitaires de droite ne votent pas aux élections du CNESER. Il faudra peut-être en parler. Non, le CNESER a été repris en main parce que dans un certain nombre de scandales de ce qu'ils appellent violences sexuelles et sexistes, des professeurs en fait souvent très à gauche, syndiqués du bon côté, avaient été épargnés par le CNESER. Et donc, il s'est agi dans un sens de renforcement contre les violences sexistes et à l'arrière-plan, on peut le supposer, un patriarcat plus ou moins fantasmé. Le CNESER a été repris en main. Et c'est ce qui fait, Olivier Beau d'ailleurs avait fait un bel article pour dénoncer cette reprise en main, ce qui fait qu'aujourd'hui, le CNESER est entièrement en fait entre les mains de la justice administrative. Il est présidé par un conseiller d'État et la commission d'instruction, ce sont deux magistrats des cours administratives d'appel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un universitaire qui aurait le malheur d'être pris dans une procédure disciplinaire, s'il est un adversaire politique, n'a aucune chance de s'en sortir.
C'est une juridiction politique, finalement.
Écoutez, il faudra en parler dans une autre émission.
Oui.
Le Conseil d'État pose un problème croissant. Le Conseil d'État a toujours posé un problème. C'est une insulte à ce qui est pourtant un supposé fondement du régime, la séparation des pouvoirs. Le Conseil d'État est un organe exécutif qui est dotée de fonctions juridictionnelles. C'est une anomalie complète. Il est très difficile de penser que un organe exécutif devient soudainement juridictionnel dès lors qu'on est à la section du contentieux. Laquelle section du contentieux aujourd'hui est présidée par un membre du Parti socialiste? Les rapporteurs sont des cadres du Parti socialiste. Dans mon affaire, le choix du rapporteur a été fait par un socialiste qui m'a confié à un socialiste avant que le rapporteur de section soit un socialiste. Et donc, ça fait partie de ses pouvoirs qui, en fait, n'ont aucune légitimité démocratique. Les socialistes ne sont rien aujourd'hui, mais ils sont tout dans les cours suprêmes, le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État.
C'est ce qu'on appelle aux États-Unis l'État profond.
Il faut juste rappeler peut-être pour les auditeurs que jusque avec Jean-Luc, sa dernière affaire, le CNESR était présidé par un professeur des universités, ce qui était l'idée qu'on est jugé par des pairs, et donc avec un certain souci d'indépendance dans l'idée de franchise des universités depuis l'époque médiévale. Voilà, là c'est terminé.
Là c'est donc il y a une dérive totalitaire que nous dénonçons tout au long de nos émissions et qui s'est manifestée là mais l'accélération de l'histoire. C'est les années 2015-2020, je remarque. 2020. On l'a vu d'ailleurs, où les atteintes aux libertés ont été très grandes à partir du Covid. Alors, il y a eu des atteintes aux libertés extrêmement graves avant, notamment à la liberté de pensée et d'expression, avec certaines lois mémorielles. Je rappelle que ça a commencé dans les années 90. Mais les atteintes avec les vaccinations obligatoires, l'intrusion dans la vie privée, a redoublé d'intensité pendant la période du Covid. Et quelqu'un m'avait dit, un ingénieur de très haut niveau m'a dit, vous allez voir, la prochaine étape, ce sera la terreur climatique. Et nous sommes en train d'y arriver, puisqu'il y a eu une proposition de loi, je ne crois pas qu'elle ait été votée, qui visait à créer un délit correctionnel de remise en question du rôle de l'homme dans le dérèglement climatique. Alors, moi, je vais tout de suite remettre en question le rôle de l'homme dans le dérèglement climatique, parce qu'il n'y a jamais eu de règlement climatique. À l'époque des dinosaures, lorsque les océans étaient 130 mètres plus haut, est-ce que c'était le bon règlement climatique? Parce que ces pauvres bêtes, elles sont mortes à la fin. Alors, et puis, quand il y a 24 000 ans, la dernière grande glaciation, et que Genève était sous 1000 mètres de glace, c'est quand même pas beaucoup. Beaucoup sur 1000 mètres, c'est pas 100 mètres, ou pas 10 mètres, c'est 1000 mètres de glace. Est-ce que c'était là le bon règlement climatique? Lorsque la mer était 130 mètres plus bas et que les îles britanniques appartenaient au continent, la Tamise coulait dans une vallée qui est devenue la Manche, la Seine était un affluent de la Tamise, et c'était il y a encore 10 000 ans. Est-ce que c'était le bon règlement climatique? Après, l'homme est arrivé, il a un petit rôle, bien sûr. Il a un rôle marginal. Rien que de dire ça, je pourrais être sanctionné, poursuivi devant les juridictions répressives si cette loi était votée. C'est absolument ahurissant. Et nous avons reçu ici un collègue, professeur de physique, qui s'appelle François Gervais, qui a écrit de nombreux articles sur l'évolution du climat. Il montre très bien d'ailleurs que l'homme a un rôle très marginal, ne serait-ce que parce que la production de CO2 est toujours en retard sur l'élévation de la température. Donc ça veut dire qu'elle vient, le CO2, l'augmentation du CO2 vient du dégazage des océans. Lorsque la température augmente, la vapeur d'eau se dégage et dans les océans, il y a 60 fois plus de CO2 que dans l'atmosphère. Donc à ce moment-là, on a une montée du CO2, ce qui nous donne la fameuse courbe en crosse d'Oreke que Al Gore avait présenté dans son film Trompeur dans les années 1999, je crois. Et on a montré aussi que les variations du CO2 n'étaient pas forcément corrélées à l'élévation de la température. Il y avait des périodes plus chaudes avec moins de CO2, plus froides avec plus de CO2. Donc l'homme a joué un rôle, mais qui est un rôle qui n'est pas absolument négligeable. Les îlots de chaleur, l'artificialisation des sols, l'albédo, par exemple le goudron noir, on voit plus de chaleur que l'herbe verte. Il y a la pollution, il y a les plastiques, bien sûr, l'homme a un rôle, mais enfin c'est un rôle entre autres. Eh bien, rien que ces choses-là, François Gervais nous a dit, tant que j'étais en activité, je ne pouvais pas l'écrire parce qu'on m'aurait... J'aurais eu des ennuis personnellement avec l'université, et surtout, on m'aurait supprimé tous mes crédits. Et il fallait, et pourtant il a été expert du GIEC. Mais il dit, je n'ai pu commencer à écrire et être vraiment indépendant que du jour où j'étais à la retraite. Et là, maintenant, il écrit des ouvrages passionnants d'ailleurs. C'est une atteinte extrêmement grave à la liberté de l'universitaire parce qu'on lui interdit de rechercher la réalité des faits, tout simplement. On lui interdit. Alors, vous, Aram, il vous est arrivé une anecdote qui a moins mal fini que pour notre collègue Coronel de Boissaison.
Oui.
Alors, je rappelle que sur un tract d'étudiant, j'avais ri parce qu'un tract d'étudiant un peu ignorant, j'avais vu que le colonel de Boissaison avait tenté un putsch contre la République à la faculté de droit de Montpellier. Alors, je pense que vous venez c'est les colonels grecs. Le colonel de Boissaison, je ne savais pas à quelle arme il appartenait. C'était la marine, l'armée de l'air ou l'armée de terre, on n'a jamais su. Comme, un peu comme le colonel Terrero, vous voyez. Le colonel de Boissaison a tenté un putsch à Montpellier. Alors, mon colonel, je suis ravi de vous rencontrer. Et alors, le général Mardi-Rossian va nous parler de son affaire.
Parfait. Alors, juste une petite précision, c'est à moitié ironique, mais en même temps réel, on est sur une radio de droite, mais moi, je ne me considère pas être de droite
gauche. Parce qu'un homme
Parce que je refuse de rentrer dans ce jeu, selon moi,
logique,
qui apparaît à partir de 1789-1790.
Mais évidemment.
Moi, je me situe avant.
Bah, évidemment.
Donc, je ne rentre pas.
Le propre d'un homme de droite, c'est qu'il ne reconnaît pas...
Moi je reconnais pas.
Si vous étiez de gauche, vous
je refuse cette dialectique.
Mais oui,
ce qui m'intéresse, c'est la nation et fondement absolu qui est la religion.
Vous êtes un homme normal.
Je sais pas.
Un homme normal est un homme qui a diverses opinions et il est donc de droite parce qu'il n'est pas à gauche.
Moi aussi, il est arrivé qu'on me dise il est de droite, il est d'extrême droite.
Mais regardez ce que dit Mathieu Bock-Côté. Mathieu Bock-Côté nous dit n'importe qui. Qui est à gauche, peut se retrouver catalogué à l'extrême droite du jour au lendemain parce qu'il se sera opposé à ce qu'ils appellent le mouvement de l'histoire.
Voilà, et étant donné que pour moi, il n'existe pas de l'histoire et de mouvement de l'histoire.
Donc vous êtes d'extrême droite, c'est normal.
Même pas, je suis en
pour
dehors.
Pour eux, oui, pour eux, pas pour nous, bien sûr.
Ah oui, mais ça...
Alors attendez, il y a un Bobineau qui doit passer, après on reprend nos travaux.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Est-ce qu'il y a des questions d'auditeurs? Il n'y a pas de questions d'auditeurs. Ben alors peut-être qu'il n'y a personne aussi pour les prendre. Parce que quelquefois, elles arrivent... Il n'y a pas de questions d'auditeurs. Bon, il faut croire que les auditeurs sont accaparés par le détroit d'Ormuz et le prix du pétrole. Hein, et que c'est la liberté de circuler qui les tracasse plus que les libertés universitaires. J'imagine. Bon,
ce que pense, il faut y suivre en général de penser l'inverse et on est plutôt dans le vrai.
Voilà.
Alors, mon affaire, je vais faire.
Non, mais c'est intéressant parce que c'est très emblématique.
Alors,
et ça prépare l'émission de demain en même temps.
Ça se passe, j'ai la mémoire des dates. C'est le 29 février 2020. Donc, en pleine crise du coronavirus, venait de reprendre, c'est la rentrée 2020, et les cours donc, se faisaient en partie à distance, en partie sur place, et donc ils étaient filmés. Ouais. C'est-à-dire que chaque étudiant pouvait ensuite, le soir... Et donc, lors du premier cours d'histoire du droit de la famille en licence 2, j'ai posé les prodromes du cours, et je suis tout sauf marxiste, vraiment. Mais il y a une seule chose que je retiens, c'est d'où parles-tu, camarade. Donc, moi, avec mes étudiants, je déteste l'hypocrisie. Et donc, je leur explique que je vais développer différentes connaissances sur tel ou tel thème, tel ou tel cours, mais que de temps en temps, à côté des données objectives, scientifiques, universitaires que je vais avancer, il peut arriver que je donne mon avis, donc j'intervienne de manière subjective.
Évidemment, parce que c'est normal.
Mais contrairement à certains de mes collègues de l'autre bord, même si je suis dans aucun bord, qui eux le font en donnant l'impression que c'est
la
même chose. Voilà. Ouais. Moi, je dis, là, c'est mon avis, c'est mon point de vue.
Ouais.
Là, par contre, c'est une donnée objective. Vous voyez, si je vous dis que la Première Guerre mondiale a eu lieu entre 1914 et 1918...
C'est une donnée objective.
Voilà. Ouais. Si je dis non, je ne suis pas d'accord, ça a eu lieu entre 1924 et 1928, là, c'est une donnée subjective et du révisionnisme, en plus. Mais bon, voilà. Et dans ce cours d'histoire du droit de la famille, donc, pour que les prodromes soient bien posés, j'ai un moment voulu dire d'où je parle, et notamment, l'intérêt d'un cours d'histoire du droit, c'est aussi de faire le lien avec l'actualité.
Oui, évidemment.
Et donc, je leur ai expliqué pourquoi aujourd'hui, le droit de la famille a-t-il à ce point-là changé en quelques années, là où pendant des siècles et des siècles, les mouvements étaient beaucoup moins forts.
C'est vrai.
Je leur ai expliqué qu'il faut remonter à la Révolution française et à l'idéologie des Lumières qui font qu'en gros, je vais très vite, l'homme finit par vouloir prendre la place de Dieu,
oui,
et s'ouvre un champ infini, puisque là où avant il y avait des normes,
oui, bien sûr,
de droit divin,
transcendantes,
traduit en droit naturel, qui faisait que certaines choses ne pouvaient jamais changer.
Oui.
Et avec l'homme qui prend le relais, ça change.
D'où la notion de post-vérité.
Voilà.
Qui est
et donc
à la mode
j'ai expliqué
aujourd'hui.
Que si le mariage des personnes homosexuelles n'avait jamais existé en tant que telles dans les sociétés anciennes. Des homosexuels, il y en avait toujours eu.
Toujours.
Et certains ont joué des très grands rôles.
Mais à Athènes, à Rome, on l'a vu, et même César.
Je fais
une petite parenthèse. On disait de Jules César qu'il était la femme de tous les maris et le mari de toutes les femmes.
Donc voilà. Mais que, par contre, le mariage homosexuel n'avait... Pour les raisons que je viens d'indiquer, c'est que toutes les religions à des degrés divers le rejettent en tant que tel, puisque le mariage est vu comme une institution, qu'elle soit comme un sacrement dans le christianisme ou un simple contrat comme en droit romain, mais une institution qui a pour but notamment la perpétuation de l'espèce, etc. etc. Et donc, j'ai commencé par expliquer de cette manière, et ensuite j'ai voulu montrer, par la théorie de la pente glissante, comment, justement, à partir du moment où le mariage homosexuel qui a été voté en 2013 était fondé sur le principe de non-discrimination, eh bien, si on prenait une pente glissante, demain, à partir du moment où on reconnaîtrait la personnalité juridique...
À certains animaux.
Eh bien, tout était possible,
bien
ce n'était
sûr,
pas une obligation.
Il y a le parti animaliste demande qu'on reconnaisse la personnalité
et
juridique.
J'ai même abordé le problème du consentement, puisqu'il y a eu des travaux qui ont été faits, notamment en Allemagne, qui indiquaient que, dans certains cas... on estimait qu'on pouvait traduire le consentement d'un animal par certains de ses mouvements, de ses paroles. Bon, bref. Mais c'était uniquement pour expliquer cela. Le cours a été donc filmé
Les étudiants. À votre insu.
Voilà. Mais ensuite, des étudiants de parti gauchiste, d'extrême gauche, l'ont utilisé, ont fait un montage évidemment tronqué en recoupant les choses, sont allés même jusqu'à travestir le son de ma voix pour donner un côté plus sointant et gouailleur. Et à partir de là, on fait un petit montage et ça a été mis dans la nuit du 29 au 30 sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Et à partir de là, ça a été un déferlement.
Comme pour notre ami.
Comme pour Jean-Luc. Je rentre pas dans tous les détails, mais il y a eu des réactions. L'université a réagi. Il y avait à ce moment-là un administrateur provisoire.
Alors que vous reprochait-on
qui a fait le nécessaire pour que les choses ne dégénèrent pas à l'extrême.
Donc vous avez pu arrêter la bombe à retardement.
Non, mais ça a été très violent. J'ai reçu des dizaines de courriels d'insultes, enfin quoi que ce soit.
Vous reprochait-on ?
On me reprochait d'avoir dit que les homosexuels, que j'avais comparé les homosexuels aux zoophiles, enfin aux animaux. Ce qui n'a jamais été mon cas. Et moi je le dis, je suis pas comme certains messieurs. Je continue, je le dis, je suis totalement contre le mariage des personnes homosexuelles, comme aujourd'hui, je suis chrétien, mais à côté de cela, évidemment, je n'ai strictement rien contre les personnes homosexuelles, et surtout, je suis évidemment contre toutes les attaques qui peuvent leur être faites, que ce soit en parole ou en acte, et j'ajoute, dans ce même cours, j'avais aussi évoqué, mais ça, on s'est soigneusement gardé de le mettre dans le film, que dans le montage, que ce que subissaient les homosexuels dans certains pays, notamment du Golfe, ou des choses comme ça, et où on les mettait à mort, où on les maltraitait, était un scandale, par contre, évidemment, on n'en parlait jamais. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il n'y avait strictement rien, ni d'attaque, ni d'illégal.
Non,
Jean-Luc, comme vous, nous sommes des agrégés de droit, j'ai fait un peu de droit dans ma vie, je sais ce qui est dans le cadre. il n'y avait absolument ni rien d'illégal, il n'y avait rien, si ce n'est un avis personnel, mais qui était fondé sur des données théoriques et qui était largement dans le cadre de ma liberté d'expression,
définie
par la loi, la décision du Conseil constitutionnel de 84, etc., etc. Et alors, dernière chose, je finis avec ça.
Oui.
Ça a été l'œuvre, comme je vous dis, de syndicats d'extrême gauche très minoritaires mais très virulents. Et ces gens-là, de toutes les manières, c'est simple. S'ils le pouvaient, ils nous élimineraient physiquement. Minimum, ils veulent nous éliminer socialement, comme ils ont essayé de le faire avec Jean-Luc, comme ils ont essayé de le faire avec moi. Et à minima aussi, ils veulent vous humilier. Et donc, certaines personnes, pas eux, m'ont dit « Ah, mais excuse-toi, je n'ai jamais présenté d'excuses. » Comme je l'ai dit par ailleurs, moi, le seul homme devant qui je me mets à genoux, il a la particularité d'être par ailleurs Dieu, c'est le Christ, donc c'est tout. Donc à partir de là, je n'avais non seulement rien fait de mal, mais était, quoi qu'il en soit, hors de question que je m'excuse devant ce genre de terroriste réellement. Et donc,
avez tout à fait raison, parce que ça fait penser à ce que nous dit notre collègue Henri Ovas, fiscaliste et spécialiste de droit des sociétés. Il dit les gens de cette secte s'en prennent d'abord à vos biens, par la fiscalité abusive, par des normes absurdes censées sauver la planète, parce que vous voyez, maintenant, c'est plus le prolétariat qu'il faut sauver, c'est la planète. Pourquoi pas le système solaire ou la galaxie pendant qu'on y est. Et donc, ils s'en prennent d'abord à vos biens, ils s'en prennent ensuite à votre liberté, et ça, on l'a vu à plusieurs reprises, vous voyez, on a des exemples concrets, et à la fin, ils s'en prennent à votre vie. Et c'est toujours le même scénario qui se reproduit.
Bien sûr.
Donc, il dit, pour... Ovas dit, finalement, c'est une secte excessivement dangereuse. Et c'est ce que nous montrera également demain. Alors, Jean-Louis Harwell, alors il y a cette très intéressante diagramme que Marc a trouvé, alors qu'on va essayer de le retrouver, qui montre que plus on va vers la droite, plus on a une pluralité d'opinions. Plus on va vers la gauche, plus on a une uniformité d'opinions.
Et de pensée.
Et de pensée. C'est extrêmement intéressant, d'ailleurs, avec la théorie, le slogan « pas d'ennemis à gauche ». C'est-à-dire que les gens de gauche ont une attitude effectivement sectaire, en ce sens qu'ils se reconnaissent dans les mêmes valeurs. Et elles sont toujours très proches les unes des autres. Quand vous allez à droite, vous avez à droite des gens qui appartiennent à des horizons extrêmement différents.
D'où la difficulté, Olivier, l'union des droites.
Bien sûr. Par exemple, moi, je suis une droite royale monarchiste, maurrassienne, chrétienne, traditionnaliste et plutôt libérale et patriote. Voilà. Mais j'ai très peu en commun avec Marine Le Pen, qui, elle, va être républicaine, va croire à la Révolution française, va chanter la Marseillaise.
Oui, mais ça pose un problème fondamental.
Moi, je ne chante jamais la Marseillaise.
Encore
moi.
Une fois, il y a plusieurs strates.
Ben oui.
Mais il faut bien se rendre compte que c'est la Révolution française et surtout
bien
son
sûr.
Idéologie
oui.
qui est la fracture
mais
béante.
Bien sûr, on est bien
c'est
d'accord.
C'est à partir de là que tout change.
On est bien d'accord.
C'est à partir de là que la...
Mais la Révolution française et les valeurs de la Révolution, moi, je les conteste. Et d'ailleurs, vous savez certainement, j'ai déjà dit à plusieurs reprises dans d'autres émissions que la Marseillaise est un plagiat. Est-ce qu'elle est la reprise maladroite par ce pauvre Rouget de Lille qui était dépourvu de talent, qui était un musicien du dimanche, un musicien amateur. On lui a demandé de composer une marche pour l'armée du Rhin, il en était absolument incapable. Alors il avait entendu l'oratorio Esther en 1786 à Versailles, où il avait été invité par Esther, était l'œuvre de Jean-Baptiste Grison, qui était maître de chapelle à Versailles. Et dans Esther, que vous pouvez entendre sur Internet, hein, il y a un passage qui s'intitule « Les stances de la calomnie ». Et c'est la Marseillaise. Et vous pouvez l'écouter, hein, vous l'avez tout, c'est enregistré sur YouTube, vous pouvez y aller. « Stances de la calomnie », Esther, c'est la Marseillaise. Simplement, pourquoi est-ce que Jean-Baptiste Grison n'a pas protesté au moment où Rouget de Lille... parce que c'était vers 1793... c'était pas le moment de la ramener. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, il a préféré adopter un profil bas, comme on dirait aujourd'hui. Il a pas dit, monsieur, non, c'est moi, là, c'est un plagiat, ça, c'est moi.
Les temps étaient coupants.
Il a eu peur d'arguments tranchants. Donc, Rouget de Lille s'est attribué la paternité de cette œuvre, et d'ailleurs, Rouget de Lille avait des opinions politiques mobiles, puisqu'il a, sous la Restauration, pour... Louis XVIII a composé un « Vive le roi » également. Donc tout ça, ce sont des simulacres. Des simulacres sous l'emprise d'une secte. Voilà la vérité. Là, je crois qu'on tient à la vérité. Et vous voyez, c'est tout à fait captivant, parce qu'à droite, vous allez voir des gens qui sont des anarchistes de droite, des honnêtes qui sont des étatistes, vous en avez qui croient à la République, vous en avez par exemple Henri de Lesquin. Il est républicain, Henri de Lesquin. Il veut une République différente, mais il veut une République. Moi, je ne veux pas de République. Il y en a qui sont bonapartistes. Bon, il y en a qui sont pour une théocratie, pourquoi pas? Après tout, quand l'ayatollah El Khamenei... a dit, avant d'être désingué par les Américains, l'idéologie démocratique est une idéologie fausse et pernicieuse. Et on peut ne pas apprécier l'ayatollah El Khamenei, mais il n'avait pas complètement tort, là. En tout cas, l'idéologie, en ce sens que conférer toute la légitimité à la loi du nombre, c'est faux et pernicieux. Après, on peut être d'accord sur ce point avec l'ayatollah et ne pas du tout être d'accord avec d'autres. C'est ça d'ailleurs qui est intéressant à droite, c'est qu'on est capable de faire le partage entre ce qu'un auteur a écrit, ce qu'il est, ce qu'il a fait, alors qu'à gauche, non, ça n'est pas possible, c'est monolithique. Et c'est pour ça que j'y vois un exemple de la pensée sectaire. Je sais pas, qu'en pensez-vous, Jean-Luc ?
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a Il y a plusieurs phénomènes qui sont à l'œuvre dans les menaces sur les libertés académiques et qui effectivement sont le fait de minorités. Alors voilà, sectes ou minorités. C'est évidemment une très longue méditation à laquelle nous serions invités pour en parler correctement. Mais peut-être, puisque vous avez la gentillesse de me donner la parole, je dirais que je vois deux facteurs à l'œuvre aujourd'hui, dans la chronologie dont vous avez parlé, avec une crispation récente. Je crois qu'il y a deux facteurs à l'œuvre qui sont tous les deux des... Quand les gens se crispent, c'est que leurs intérêts sont en jeu, n'est-ce pas ?
Oui,
et donc, je crois qu'il y a deux intérêts, de deux ordres différents, mais qui convergent. Il y a, pour la plupart des collègues, il y a simplement un intérêt statutaire.
Tout à fait.
Dont l'intérêt purement matériel. Et cet intérêt statutaire, ou ce pouvoir statutaire qu'ils cherchent à garder, est lié d'une certaine façon à la crise de l'université. Je dirais, ce serait une très longue histoire, mais ça n'avait pas été si mal retracé par un homme de gauche brillant qui est Régis Debray. Déjà dans Le pouvoir intellectuel, son ouvrage de 1979, Régis Debray disait il y a trois cycles dans la magistrature intellectuelle ou la cléricature, pourrait-on dire, intellectuelle. Après la Révolution, évidemment, c'est-à-dire au moment de la tentative de substitution d'un clergé traditionnel par des clergés artificiels successifs, et ça a été ce qu'il appelle le cycle universitaire, la Troisième République, l'époque de Durkheim, etc. Puis le cycle éditorial qui est celui de la première moitié du XXe siècle avec les grands journaux,
la presse.
Et déjà les universitaires commencent à être un peu déclassés. Et puis évidemment dans l'après-guerre, avec les médias, un déclassement des universitaires. Et donc il y a chez les universitaires une tentative d'être les mouches du coche en fait de cette évolution. Et de tenter, je crois, de se faire les auxiliaires du pouvoir médiatique.
Par une surenchère.
Une surenchère, absolument. Mmh. Et donc, il y a cet aspect statutaire, essayer de conserver une importance, alors que, de toute évidence, et d'ailleurs largement par la faute des progressistes parmi eux, l'égalitarisme a mené à la chute de la grande culture, qui a mené à la fin des lecteurs, en fait, et à l'avènement du monde des écrans en grande partie. Et le deuxième facteur, le deuxième intérêt qui est menacé, alors là, c'est pour une plus petite partie de nos collègues qui, pour les plus radicaux, confinent à la secte, c'est l'intérêt non plus statutaire, mais idéologique, voire strictement politique. Et là, on est obligé de dire, comme le faisait notre collègue Aram, que c'est la suite d'un germe qui a été posé à la Révolution. Le grand paradoxe de la Révolution, c'est qu'elle est supposée accoucher politiquement du monde des Lumières, alors que c'est le moment où on va fermer les facultés de droit, dissoudre les barreaux, où l'on va dire que la République n'a pas besoin de savants, on va laisser courir Condorcet en prison, et surtout où Saint-Just aura le mot qui explique notre situation, en 1793, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Et là a été posé un germe révolutionnaire qui a connu ensuite toutes sortes de mutations, la principale étant le marxisme, pour aller très vite. Et vous constaterez, chers collègues, qu'il y a une constante stratégie de censure des marxistes. Elle a été à l'œuvre de façon constante au XXe siècle. Pendant que l'Union soviétique existe encore, il y a deux grandes consignes qui sont mises à l'œuvre et qui vont menacer la liberté d'expression et les libertés universitaires. C'est l'accusation de fascisme pour tout adversaire idéologique qui est, comme vous le savez, la grande stratégie stalinienne lancée à partir de 1928.
Accusation qui existe toujours d'ailleurs. Moi, je suis régulièrement accusé de fascisme.
Bien sûr.
Ma femme
bien
aussi.
Sûr,
ma femme, alors qu'elle est à moitié juive. Mais alors, on ne l'accuse pas de nazi, parce que là, ça serait un peu bizarre, quoi. Il y a eu des nazis qui étaient juifs, d'ailleurs. Notamment, on dit qu'Heydrich l'était. Bon, on dit même qu'Adolf Hitler avait du sang juif. Bon, enfin, on passe sur des terrains très glissants, parce qu'on ne faut pas aller trop loin là-dedans. Mais moi, je suis régulièrement accusé de fascisme. Sans que les gens sachent d'ailleurs quand même pas comment ça s'écrit. Il écrit CH. C'est comme le colonel de Boissaison, par exemple.
C'est ça. C'est un juif de génie qui a parlé de réductio ad Hitlerum. Oui. C'est le grand Léo Strauss, évidemment.
C'est lui qui a Léo Strauss qui a dit ça, oui.
C'est Léo Strauss. Et on en est effectivement toujours là. La deuxième grande consigne marxiste qui a été mise en œuvre, spécialement après la Deuxième Guerre mondiale, c'est le gramschisme. Kant a été généralisé, ce qui était plutôt minoritaire dans le Parti communiste italien au départ, c'est-à-dire l'idée de la conquête du pouvoir politique par la conquête préalable, l'hégémonie culturelle. Oui, oui. Et dans les pays occidentaux, où justement il y a une cléricature intellectuelle. Et là, le travail d'entrisme des milieux de gauche dans l'ensemble de l'Occident, et notamment en France, dans tout ce qui est culturel, on le sait par cœur, et notamment l'université, a préparé en fait la mutation suivante, et j'en termine par là, j'ai été à nouveau trop long, qui est celle de la chute du mur de Berlin, puis la chute de l'URSS. Donc entre 89 et 91, il y a la fin du socialisme réel, amène la dernière mutation qui est la plus dangereuse pour nous, qui est le wokisme.
C'est en deux temps.
C'est le politically correct et le wokisme, qui est en fait un continuum. Et qu'est-ce qui se passe? Le marxisme mute. Ils ont perdu leur modèle politique. Oui, donc le marxisme devient ce que les Américains appellent le cultural marxism, le marxisme culturel. Et ça commence par être la political correctness, ce qui est très frappant, c'est que ça part des universités. Donc du cœur du monde libre et qui aurait dû être le cœur du débat. Et c'est là que l'on comprend qu'en fait, ce monde libre qui repose sur des fondements libéraux révolutionnaires, il est en fait très mal placé pour résister à sa radicalisation marxiste en réalité. Après, une longue histoire d'en parler, mais ça part du lieu qui aurait dû être le lieu du débat, les universités, où dans les années 1990, pour la première fois, on a dans les universités des appels à la censure.
On le voit quand un colloque ne peut pas se tenir parce que des activistes d'extrême gauche viennent perturber les débats et menacer les participants. Ça se voit régulièrement maintenant. On en a eu des exemples il n'y a encore pas si longtemps.
Bien sûr. Et il y a aujourd'hui un consensus tout de même là-dessus, puisque même France Université, la terrible conférence des présidents d'université, si toxique à tant d'égards, a fini quand même par faire un rapport qui effectivement, c'est un rapport d'octobre 2025 de France Université intitulé « Défendre et promouvoir la liberté académique » et qui dit qu'effectivement, sur les 10 dernières années, au Canada, aux États-Unis, en Europe occidentale, on a des annulations de conférences, de colloques, des perturbations de cours, et des campagnes de stigmatisation sur les réseaux sociaux, comme évidemment notre collègue Aram l'a connu, et puis des pressions idéologiques pour abandonner les recherches. Il y a tout un tas de domaines, mais extrêmement variés, ça va du climat, comme vous l'avez rappelé, jusqu'à évidemment la biologie, avec la question du genre, etc., et qui sont abandonnés en réalité. Donc on a ce que Philippe Nemo a appelé à très juste titre une régression intellectuelle qui vient de ce wokisme, qui organise la censure de ce qu'étaient les humanités et la science pour la fracturer dans ce qu'ils appellent, comme vous le savez, les studies, gender studies, black studies, queer studies, etc., qui fragmentent la science en préambule, en fait, à une fragmentation de la société. Le programme censé relier les studies ou de relier les minorités qui étudient les studies étant
l'intersectionnalité. Mais vous savez, j'ai dit à mes étudiants, je les ai frappés de stupeur. Alors j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière, parce que j'ai toujours prononcé des paroles qui étaient de nature à révolter les wokistes et les gens d'extrême gauche, qui me haïssent. Un jour, un ami de mon fils, il a parlé de moi à un étudiant de Sceaux, qui a dit « Tournafond, il est pire qu'Hitler ». C'est un beau compliment, parce que j'ai quand même pas tué des millions de gens, moi. Mais d'ailleurs, je suis encore plus dangereux qu'Hitler, je suis content. D'une certaine manière, c'est flatteur, c'est quand même bien. C'est-à-dire que je serais plus pervers encore, parce que j'ai l'air gentil. Alors, un jour, j'ai dit à mes étudiants, ça les a frappés de stupeur, je l'ai vu, la cancel culture, c'est l'équivalent pour la société de la maladie d'Alzheimer pour l'individu. Mmh. Et alors là, je les ai vus blêmir. Et là, je crois que ça a touché au but. Mmh. Après, ils n'étaient plus les mêmes. Et je crois que c'est la vérité, parce que dans nos existences, nous avons des expériences plus ou moins douloureuses, plus ou moins heureuses. Et ça fait partie de la vie et de la mémoire. Mmh. C'est ce que dit Chaplet, le caractère tragique de l'existence. Mmh. Si vous refusez cela, vous sortez de la vie, vous n'avez plus que l'euthanasie à ce moment-là. Mmh. Ou la maladie d'Alzheimer, la perte de la mémoire.
Alors, pour rebondir sur ce que vient de dire
notre collègue,
Jean-Luc, évidemment, je partage tout à fait ce qu'il a dit. J'ajouterais que, effectivement, c'est là encore cette espèce de phénomène de boule de neige qui aboutit au wokisme, qui est quelque chose qui est au fond là la dimension sociétale et qui devient quelque chose à certains égards abominable. Là encore, cela ne m'étonne pas du tout. C'est vraiment la boule de neige qui ne fait que grossir depuis des décennies et des siècles. L'idée est celle-ci. Je pense que, et ça, c'est, je reprends à Jean-Louis Harwell et à d'autres, c'est la dimension de religion séculière.
Oui, évidemment.
Il faut bien voir qu'il s'agit d'une religion séculière,
absolument,
mais sans transcendance.
C'est tout à fait
et
ça.
Et c'est ce que disait Jean-Luc tout à l'heure, notamment la phrase de Saint-Just, mais d'autres. Carrier aussi qui dit « Nous transformerons la France en cimetière plutôt que de ne pas la régénérer ». C'est-à-dire qu'il y a une dimension vraiment de religion séculière, et plus encore que millénariste, messianique, d'apporter ici-bas leur vérité qui est le bien absolu. Donc à partir de là, toute résistance à cette vérité
devient un sacrilège,
qu'il faut détruire, annihiler. Et juste, je termine peut-être en faisant un petit parallèle justement avec le christianisme sur lequel on passe du temps, son temps à dire du mal, les bûchers du Moyen-Âge, l'Inquisition. Oui. Dans le christianisme, le cœur, c'est la doxa, comme pour ces religions séculières. Or, les plus grands penseurs, je pense notamment à saint Augustin ou même avant lui, Origène, qui est un théologien du 3e siècle, peut-être le plus grand théologien chrétien de tous les temps, eux-mêmes reconnaissent que nonobstant une vérité et des erreurs, l'erreur peut être utile pour polir, pour aller plus loin et mieux comprendre la vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette dimension, comme vous le disiez, peut-être sectaire absolue et de volonté d'annihiler une opinion dissidente dans le christianisme.
Le concept d'avocat du diable.
C'est pour ça qu'ici, là, on est face à quelque chose qui est totalitaire au vrai sens du terme.
On le sait. Alors, il y a des questions qui affluent brusquement, qu'il n'y avait pas de questions.
Remarques et des questions. Tout d'abord, une remarque. Jean-Baptiste Grisan n'a pas été maître de chapelle à Versailles, mais à Saint-Omer.
Oui, désolé, cher collègue. Mais bravo, en tout cas, de connaître Jean-Baptiste Grisan et vous écoutez les stances de la calomnie. Je trouve que la Marseillaise, c'est son vrai nom et elle porte bien son nom.
Alors, stances de la calomnie. Une remarque d'un autre auditeur. Bonsoir, merci pour cette émission très intéressante. Et le monsieur durement sans par la secte d'extrême gauche est très courageux de continuer à lutter.
Bravo.
Dommage que la chaîne CNews ne parle pas des sanctions émises par la secte d'extrême gauche dans le milieu universitaire bien courtoisement.
Mais un jour, on va essayer de en parler un peu à Bolloré.
Une auditrice. Bonsoir, merci pour cette émission intéressante. Je ne suis ni république, ni roi d'Angleterre et roi de Belgique, mais pour un homme ou une femme comme Jeanne d'Arc qui va me redonner la fierté d'être française bien courtoisement.
Il y en a, mais simplement ils ne sont pas au pouvoir.
Alors, bonsoir, si vous avez au moins votre auditeur anonyme, mais cette affaire est atterrante et au-delà de tout commentaire, faut-il admirer ceux qui osent encore dire qu'ils ont confiance dans la justice de leur pays ? On ne doit pas avoir le même. C'est un cauchemar orwellien et la grande masse confirme qu'elle peut tout accepter des extrémistes. Il faut bien se résoudre au constat que la civilisation basée sur un droit garant des libertés est morte. Ce que l'on devait comprendre dans la formule oxymorique de la Trinité républicaine. L'imposture de la majorité n'est plus à démontrer. L'histoire et l'histoire des sciences le prouvent depuis les origines de la mémoire de l'humanité. Le progressisme actuel, c'est la régression dans tous les domaines.
Alors, ça correspond d'ailleurs à l'opinion d'un collègue mathématicien, le professeur Bernard Bozamy, qui a écrit un ouvrage intéressant, que nous avons invité à cette antenne, et qui estime que nous sommes entrés depuis les années 80-90, dans une nouvelle ère d'obscurantisme. Lui, son idée, c'est que les civilisations ont une phase ascendante, un sommet, qui a été atteint sans doute au 19e, 20e siècle, et qu'ensuite elles rentrent dans une phase de déclin irréversible, et il appelle ça l'obscurantisme. Et effectivement, nous avons maintenant, par exemple, dire que en pénalisant les propriétaires et en leur interdisant de louer leurs biens, ils vont détruire le climat de la Terre. C'est typiquement obscurantiste. Hein. C'est comme les procès en sorcellerie. C'est typiquement obscurantiste. Nous expliquer que les changements de température du globe ou les glaciations, c'est lié aux industries humaines, c'est tellement grotesque. Et c'est d'ailleurs encore pire le jour où il y a une loi qui va interdire de le remettre en question. Donc là, on est dans un système complètement totalitaire, effectivement. Donc il dit que nous sommes entrés dans une nouvelle ère d'obscurantisme. Et malheureusement, alors quand on voit les procédures absurdes qu'on nous impose à l'université, là, l'obscurantisme devient une réalité. Et la preuve par neuf, c'est quand on a répondu n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. C'était comme le pipotron, hein. Ça a marché parfaitement. C'est fou, ce truc-là. C'est incroyable. Alors finalement, l'HCRS a été dissous à la fin. Et d'ailleurs, il paraît que toutes
ces... Ils vont en refaire une, mais dans une version différente.
Il y aura quelque chose d'encore mieux, vous inquiétez pas.
Et tous les rapports d'auto-évaluation ont été fichus à la poubelle. Parce qu'ils ont dû se dire d'un côté ceux qui servaient à rien mais qui étaient compréhensibles et d'autres les nôtres qui étaient incompréhensibles. Alors, allez, on jette tout, ça sert plus à rien. Ils ont dû tout mettre à la broyeuse. Et ça a coûté des dizaines de millions d'euros à la collectivité, cette bêtise-là. Peut-être plus encore. Et ça fait entretenir, ça a payé, on a payé des agents pendant des mois pour ça. Ça parce qu'il y avait des vagues. Rappelez-vous, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. Ah mais j'ai gardé, je vous joue un jour, si on se rencontre physiquement, je vous montrerai la notice qui est épaisse comme un annuaire du téléphone. Et quand vous commencez à dire ça, vous vous dites c'est un asile d'aliénés, il n'y a pas de doute, effectivement. Alors, eh ben, je suis content qu'il y ait quelques questions d'auditeurs, parce que je commençais à m'inquiéter, j'ai dit Dieu seul nous écoute en ce moment.
C'est déjà ça.
C'est déjà quand même quelque chose. Mais en tout cas, alors, cher Jean-Luc Cornel de Boissaison, comment vivez-vous maintenant ? Après toutes ces vicissitudes et toutes ces épreuves, comment vous en sortez-vous ? Est-ce que vous espérez quand même revenir un jour dans le...
Non.
Comment ça, non ?
Non, disons que, en tout cas, pas avant des changements politiques majeurs,
oui.
Parce que cette affaire est,
oui,
est entièrement politique, évidemment.
C'est évident.
Je suis de longue date en mode survie, mais ce serait très long à expliquer. J'ai essayé de travailler dans des établissements d'enseignement supérieur privé où
oui.
J'ai été régulièrement dénoncé par des médias locaux, parfois
alors
même
vous,
par
vous êtes professeur
à l'ICEP,
à Lyon,
et
notamment.
La dernière école qui a le courage oui. de m'employer est l'ICEP,
voilà.
Effectivement. J'aurais beaucoup de choses à dire sur la façon dont des journalistes me dénoncent dans les écoles où je travaille pour ne pas permettre que je puisse continuer mon activité. Donc je m'y suis habitué et ça me permet au moins de donner plus de temps à cette école unique et remarquable qu'est l'ICEP, effectivement.
Voilà. Ben, le jour où l'ICEP me recrutera également. Vous passerez au second plan puisque je suis pire qu'Hitler. Donc vous semblerez être un moindre mal.
je vais soutenir votre candidature avec autant plus d'enthousiasme.
Non, mais il faut aller dans des établissements comme celui-là parce que c'est là que nous retrouvons la vraie liberté, qui est la liberté
absolument.
De conscience. C'est-à-dire que nous, on ne dit pas des choses pour faire plaisir à des groupes de pression, pour complaire aux puissants du moment, ou pouvoir avoir du pouvoir, du sexe et de l'argent. Nous, on ne travaille pas comme ça. On dit les choses en fonction de ce que nous pensons être vrai. Marc,
Et petite question, avez-vous envisagé un exil ou un départ à l'étranger dans une université ou une école à l'étranger ?
Oui, bien sûr, j'y pense toujours. C'est une hypothèse qui... à laquelle je travaille également. Je ne suis peut-être pas suffisamment un bon anglophone pour cela, mais j'y travaille, j'y travaille en partie. L'étranger francophone, et notamment nos malheureux voisins de Belgique, sont dans un état pire que nous. Le Canada, le Québec, en l'occurrence francophone, n'en parlons pas,
ouais,
n'est-ce pas ?
C'est encore pire.
Donc, et avant l'administration Trump, qui a eu au moins, dans une politique par ailleurs quelque peu erratique, le mérite de mettre fin au wokisme subventionné. Avant cela, c'était en fait assez difficile, même aux États-Unis, d'envisager effectivement un départ. Donc, Mais voilà, c'est, ça fait partie avec quelques amis des choses qui vont peut-être, qui finiront peut-être par se faire. Je vois que l'émission va se terminer. Je me demandais, chers collègues, si vous me permettriez de dire peut-être pour terminer de mon côté et vraiment très très rapidement que je pense que dans cette ces menaces sur les libertés universitaires, je parlais des du caractère au fond de défense d'intérêts à la fois statutaires et idéologiques d'une partie de nos collègues, mais je voudrais aussi dire que ces minorités ont un pouvoir également par le moyen syndical et qu'il faut inviter les universitaires qui ne partagent pas ces positions qui mènent au terrorisme intellectuel à être plus attentifs à cela, à se souvenir que des élections existent, qu'il y a des représentants. Moi, en fait, j'ai été, je dirais, lynché disciplinairement par des gens qui, au niveau national, ont été élus par 13% des professeurs. Oui, c'est ça. Voilà. Et ces 13% n'étaient pas des 13% conservateurs. Hein. Il faut être très conscient de cela. Aujourd'hui, ces syndicats qui font tourner le ministère de l'Enseignement supérieur sont entre les mains des forces qui sont hostiles effectivement à la liberté de penser. Donc il faut être très très méfiant. Aujourd'hui, une procédure disciplinaire met à mort, hein, absolument. Je pense au cas de quelqu'un comme Bertrand Pauvert à l'université de Mulhouse, qui a été révoqué simplement à partir du moment où il a rejoint l'opposition Rassemblement National dans sa ville.
Rien que pour ça.
À ce moment-là, des étudiantes se sont souvenues qu'il avait eu des propos sexistes.
Mais trois ans auparavant.
Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, il faut dire à nos collègues, faites très attention. Et ne devenez pas lâche pour autant. Engagez-vous, et notamment, engagez-vous dans un renouvellement des forces de représentation des universitaires. Et enfin, et j'en termine tout à fait, il faut comprendre qu'il y a non seulement une crispation de ces milieux-là, mais une crispation générale du pouvoir, y compris centriste, ce que Mathieu Bocoté appelle avec talent l'extrême-centre, parce qu'effectivement, les choses sont en train de changer chez nos concitoyens, chez nos compatriotes, et la crispation est à la mesure de la possibilité d'alternance politique. Donc, il faut tenir, parce qu'en fait, l'alternance politique peut, et je l'espère, va avoir lieu, mais les crispations dans cette attente seront d'autant plus dures chez les universitaires épurés, chez les magistrats et leur pouvoir des juges, chez les journalistes et leur tribunal de la sainte investigation. Il faut être conscient de cette situation.
Alors, il y a une question d'auditeur qui vient d'arriver, et on va la lire.
La dernière question de la soirée. Mais que ressort-il des universités de soi-disant sciences humaines ? Des diplômes bidonnés qui ne servent qu'à justifier les idéologies mises en œuvre par le processus du cliquet pour des prises de pouvoir en réseau. Ne faudrait-il pas évaluer les retombées de ces enseignements, limiter le nombre de places aux besoins du pays et ne recruter les étudiants que sur concours? Il n'y a aucune raison de garder ces privilèges des universités qui datent des temps où l'université était sous la juridiction de l'Église et donc représentait un contre-pouvoir au pouvoir royal. Au fond, l'ancien régime était-il bien plus démocrate que la démocratie totalitaire actuelle ?
C'est tout à fait juste, je trouve que c'est tout à fait juste. Alors, on ne peut pas dire ça des juristes, parce que quand même les juristes ont un rôle social. Ils deviennent avocats, notaires, conseillers juridiques, agents d'assurance, magistrats, professeurs de droit. Donc là, il y a un rôle social, mais pour beaucoup de sciences humaines, et, effectivement, ça ne mène pas à grand-chose, on le sait très bien, ça mène au chômage. Alors, en tout cas, c'est une émission extrêmement intéressante, parce que vous avez, l'un comme l'autre, Aram et Jean-Luc, mis le point sur l'aspect religieux, qui fait dire à notre maître, que nous appelons un peu notre prophète, Jean-Louis Arouel, qui a découvert, qui a identifié cette religion, il disait, il y a déjà quelques années, « Détrompez-vous, nous sommes en pleine guerre de religion. »
Absolument.
Simplement, on ne vous brûle, on vous tue pas physiquement, on vous tue civilement ou socialement, mais nous sommes en pleine guerre de religion. Alors quand on arrive à bien s'en sortir, comme je l'ai fait, bah, parce que sans doute parce que j'étais royaliste, ça faisait, les gens ne comprenaient pas très bien à quoi ça correspondait. J'aurais été Front National, ça aurait été pire sans doute. Mais je m'en suis toujours très bien sorti avec ça, parce que c'était vague et utopique pour la plupart de mes collègues. C'était plutôt folklorique, on va dire. Mais on peut tomber très mal et tomber sur des tribunaux de l'Inquisition, comme ça a été le cas de Jean-Luc Coronet de Boissaison, et comme ça aurait pu être le cas aussi d'Aram Mardirossian si il n'avait pas pu désamorcer la bombe en temps utile. En tout cas, demain, avec Jean-Louis Harwell, qui sera dans ce studio, et vous, Jean-Luc, j'espère que vous pourrez être là encore, je crois que vous serez là. On poursuivra ces réflexions avec l'aide des auditeurs, parce que je dis qu'ici, nous ne sommes pas des fanatiques de la démocratie, nous n'avons jamais pensé qu'elle supplantait Dieu, mais nous sommes toujours extrêmement attentifs à l'opinion des auditeurs et nous sommes toujours disposés à leur donner la parole autant qu'ils le souhaitent. Et nous pratiquons la démocratie sans y croire. Voilà. Aram,
sans être une conclusion, un mot pour montrer la dimension de mon point de vue tout à fait relative, voire discutable, du droit positif par rapport au droit naturel. Vous connaissez l'adage « Nemo auditor propriam turpitud nem allegans ». Que ce soit pour Jean-Luc ou pour moi, quelque part, nos ennuis dans les deux cas démarrent sur un délit auquel nous sommes confrontés et par un renversement, les choses
Sont inversées.
Donc les choses sont inversées, mais c'est pour ça qu'il faut bien avoir conscience de ce que représente le droit positif par rapport, par exemple, au droit naturel, qui est un thème tout à fait passionnant sur lequel il faudrait revenir.
Avec plaisir. À bientôt, chers auditeurs. À demain, en tout cas.
Vous venez d'entendre le Libre Journal du Droit et des Libertés dirigé par Olivier Tournafond, assisté de Marc de Stahl. Diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mardi 31 mars 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour les prix francs de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.